à tous. Il y a une sorte de No Man's Land juste devant moi, ça fait un peu bizarre, mais on va faire avec. Alors mon message de ce matin sera en partie, va parler en partie de perfection. Et je ne pouvais pas commencer ce message sans revenir sur quelque chose qu'on a vu vendredi soir. Apparemment, il y a 3 milliards de personnes qui ont vu ça. Donc ça fait beaucoup de personnes. Je ne sais pas si vous l'avez vu. 5 anneaux olympiques, moins 1. Vous l'avez vu cette image? Et vraiment, c'était comme un clin d'œil pour moi à ce message. Parce que ça montrait qu'avec tous les efforts qu'on peut faire, tous les millions qu'on peut investir dans une cérémonie, il suffit qu'il y ait un anneau qui ne s'ouvre pas et voilà. C'est pas parfait et c'est ça qu'on va retenir. L'homme peut faire beaucoup d'efforts pour faire quelque chose de parfait, mais il n'y arrive jamais en fait. Alors j'avoue, j'ai quand même regardé toute cette cérémonie et vous savez, les JO, c'est un peu censé être une grande ode à la fraternité, au respect entre les peuples, à la solidarité, etc. Et moi, ce que vraiment j'ai retenu de cette cérémonie, c'est que le présentateur a passé son temps à expliquer les différentes rivalités qu'on peut trouver et qui ont fait que ces jeux sont tant critiqués. Tel chef d'État n'est pas venu à cause de ça. Telle déclaration a été critiquée. Tel pays a failli boycotter. Rivalité politique, économique, religieuse, ethnique et même éthique. En fait, j'ai plutôt l'impression qu'au final, les JO sont plutôt comme un révélateur de l'incapacité de l'homme à se débarrasser de toutes ses rivalités. Et pourtant, le but au départ, il est presque biblique, je dis bien presque. Le but de départ est que pendant quelques semaines, les hommes rejettent la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, qu'il n'y ait plus ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Le but est que pendant quelques semaines, les hommes se revêtent de compassion, de bonté, d'humilité, qu'ils se supportent les uns les autres, même qu'ils se pardonnent les uns les autres. Bref, un monde idéal et parfait. Et l'inventeur des jeux modernes pensait que le sport serait le lien qui permettrait d'unir tous ces ingrédients de la perfection. Et bien, mauvaise nouvelle, le sport n'est pas ce lien de la perfection. Mais bonne nouvelle pour nous et pour le monde, ce lien de la perfection, il existe. Et la question que on va se poser ce matin, c'est: êtes-vous revêtu de ce lien de la perfection? Êtes-vous revêtu du lien de la perfection? Alors j'arrête le suspense et je vous invite à lire avec moi Colossiens 3, verset 14. Colossiens 3, 14. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. L'amour par-dessus toute autre chose. Voici le menu pour ce matin. Ah oui, parce que je ne vous ai pas encore dit, mais j'ai construit mon message de ce matin comme un repas, en fait. Puisque la parole de Dieu est une nourriture pour nous, je me suis dit, finalement, un message, c'est comme un bon repas, non? Enfin, si le message est bon. Alors là, vous venez de prendre l'apéritif. J'espère que ça vous a mis en appétit. Et maintenant, vous vous demandez sûrement, quel sera le menu? Alors le menu pour ce matin, en entrée, nous allons nous demander ce que signifie ce verset. Que nous demande ce verset? L'entrée a pour but de commencer à nous rassasier, mais ça reste assez léger, vous verrez. C'est une petite salade, quelques crudités, quelque chose de frais. C'est sympa, mais ce qu'on attend tous avec impatience, c'est le plat principal. Et le plat principal de mon message ce matin, ce sera comment obéir à ce verset. Vous verrez qu'il n'y a pas de plat plus succulent que l'amour. Et nous allons nous plonger dans cet amour que Paul nous invite à revêtir. Et puis nous passerons au petit plaisir final, la petite note sucrée, qui finalement n'est peut-être pas complètement indispensable, mais qui nous fait tellement de bien, le dessert. Et le dessert, ce sera pourquoi ? Pourquoi obéir à ce verset ? Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je dis que cette troisième partie n'est pas forcément indispensable, mais qu'on n'a pas envie de s'en priver, tout comme un bon dessert. Alors, en entrée, que nous demande ce verset ? Notre verset commence par « par-dessus tout cela ». Et là, Paul parle de toutes les choses qu'il a énoncées au verset précédent et que je vous invite à lire. Donc, Colossiens 3, verset 12. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. J'aimerais qu'on comprenne bien la pensée de Paul dans ce passage, quand il nous dit de nous revêtir de toutes ces choses. Paul n'est pas en train de nous faire la morale. Paul n'est pas en train de dire « tu dois être gentil, tu ne dois pas dire de gros mots, tu dois aider les autres ». Tout ça pour être un bon chrétien. Ce n'est pas du tout ce que Paul est en train de nous dire. Et ceux qui pensent que c'est ce qu'il est en train de dire et que les chrétiens ne font que suivre des règles pour être de bons petits chrétiens, je pense qu'ils n'ont pas compris l'image que Paul utilise ici. Réfléchissons à cette métaphore qu'il utilise, cette métaphore des vêtements. Il y a trois choses évidentes par rapport à un vêtement et qui vont nous aider à comprendre ce que Paul veut dire. La première chose, c'est que les vêtements ne se pratiquent pas, ils se portent. La deuxième chose, c'est qu'on ne met pas des vêtements au moment où on en a besoin, on anticipe le besoin. La troisième chose, c'est qu'on remet des vêtements chaque jour. Alors le premier point, les vêtements ne se pratiquent pas, ils se portent. Paul ne nous demande pas ici d'exercer la bonté, la bienveillance, l'humilité, l'amour. Il nous demande de les porter sur nous-mêmes. Le deuxième point, on ne met pas nos vêtements au moment où on en a besoin, on anticipe le besoin. Est-ce que vous avez déjà vu un footballeur attendre de s'être pris un tac dans les tibias pour se dire, tiens, mais si je mettais un protège-tibia ? Est-ce que vous avez déjà vu un film de guerre où le héros attend de se prendre un coup de hache dans l'épaule pour penser à mettre son armure ? Est-ce que le matin, vous attendez d'être dehors dans le froid pour vous décider à mettre un manteau ? Non, lorsqu'on s'habille, on anticipe le besoin. En matière de bonté, d'humilité, de pardon, d'amour, nous devons anticiper le besoin. C'est une nécessité. Car par nature, nos cœurs ne sont pas comme ça. Il ne s'agit pas d'arriver devant ses collègues, devant son époux, son épouse, devant ses amis, ses enfants, et de nous dire « Allez, aujourd'hui, je vais être sympa avec eux. Je vais bien me comporter, je vais être patient s'ils sont désagréables avec moi. Je vais les aider si jamais j'en ai l'occasion. » Vous pouvez essayer de faire ça, mais ça ne marche pas. Revêtir l'amour, c'est anticiper le besoin. Et troisième point, on met de nouveaux vêtements chaque jour. Nous revêtir, c'est donc une action de notre part qu'on effectue régulièrement, voire quotidiennement. Alors en résumé, qu'est-ce que nous demande ce verset ? Eh bien, de chaque jour, nous revêtir de l'amour, avant même d'avoir à l'exercer envers quelqu'un, de le porter sur nous-mêmes en permanence et non pas de l'exercer de manière ponctuelle. Et cela doit passer avant tout le reste. Alors on arrive au plat principal de ce message. Eh bien, comment faire ? Comment obéir à cette demande, à ce que Paul veut que l'on fasse ? Comment obéir à ce verset ? Un enfant de 7 ans demanda un jour à une amie d'école « Qu'est-ce que l'amour ?» La fillette lui répondit « L'amour, c'est quand tu me voles chaque jour un chocolat dans mon sac et que chaque matin, j'en remets un exprès pour toi. » Je trouve que c'est assez bien dit. L'amour est quelque chose de concret qui se manifeste de façon visible. Lors de nos groupes de maison, nous avons lu 1 Jean 3, verset 18. « Mes enfants, que votre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. » Mais pourtant, on remarque que Paul, dans notre passage, il résonne un peu dans l'autre sens. Il nous a d'abord parlé des actes, la bonté, la bienveillance, le pardon, on l'a lu dans les versets 12 et 13. Puis il dit « Par-dessus tout cela, revêtez l'amour. » C'est étonnant car il semble que toutes ces attitudes demandent de l'amour. Peut-on être bon envers quelqu'un sans l'aimer ? Peut-on pardonner quelqu'un sans l'aimer ? L'amour est présent dans tout ce que Paul demande au verset 12 et 13. Pourquoi alors il ajoute au verset 14 « Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour. » En fait, toutes les attitudes qui sont mentionnées dans les versets précédents sont comme les branches ou les rameaux d'un arbre dont le tronc serait l'amour. Et Paul veut que l'on cultive les branches, bien sûr, mais par-dessus tout, il souhaite que l'on cultive le tronc. Nous devons cultiver l'amour en lui-même, dans nos vies. Il doit être l'objet de nos soins constants. Ce doit être notre première préoccupation. En 1 Corinthiens 12, 31, Paul qualifie l'amour de voie par excellence. Si nous voulons arriver au but, il nous faut emprunter la voie par excellence et pas les chemins détournés. Alors pour cette partie du message, je vous avoue que j'ai été assez embêté. Je voulais vous parler de l'amour dont on doit se revêtir, l'amour biblique. Et j'avais commencé à lister plusieurs points. Un amour dirigé vers Dieu, en premier lieu, avant de retomber sur ses créatures. Un amour fruit de la volonté et non de la préférence. Un amour qui consume tout notre être. Un amour à l'exemple de Christ. Mais j'ai vite été confronté à un gros problème. 1 Corinthiens 13, verset 8, « L'amour n'aura pas de fin. » Mais mon message, lui, il en a une. Alors comment parler en 1000 mots, environ, de quelque chose qui n'a pas de fin ? J'ai un peu abandonné cette idée, et d'autant plus que je me suis dit, mais comment fait-on ? Comment fait-on pour apprendre à un enfant à aimer ? Et là, n'importe quel parent me répondrait, je pense, que pour apprendre à un enfant à aimer, il faut lui témoigner de l'amour. Et Dieu s'y prend de la même manière envers nous. Pour nous apprendre à aimer, il nous témoigne son amour. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. 1 Jean 4, versets 10 et 11. Je crois que ce que Dieu veut nous dire ce matin et ce qui m'a mis sur le cœur de vous dire, de vous transmettre, ce n'est pas « tu dois aimer comme ceci, comme cela, ton frère, ta sœur, tu dois te comporter comme ceci avec elle ou avec lui. » Mais c'est plutôt « viens, approche-toi de moi et regarde combien je t'aime. Plonge-toi dans cet amour et revêt-toi de cet amour. » Et comme nous l'avons vu lors de l'entrée, c'est un vêtement qu'il nous faut remettre tous les jours. Alors je ne vais pas vous dire comment doit être votre amour pour Dieu, comment doit être votre amour pour vos frères et sœurs. Non, je vais plutôt vous inciter à rechercher ardemment cet amour auprès de Dieu. Éphésiens 5, verset 2, je vous invite à le chercher. Éphésiens 5, verset 2 nous dit « Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Je veux vous inviter ce matin vraiment à rechercher cet amour dans la parole de Dieu. Et voici quelques manières concrètes pour nous d'obéir à ce verset et à nous revêtir de l'amour au quotidien. En préparant ce message, j'ai commencé une liste de versets dans lesquels Dieu nous parle de son amour pour nous. Moi, vraiment, je vous conseille de vous faire une liste de versets où Dieu vous parle de son amour pour vous. Si vous voulez, je peux déjà vous envoyer les quelques versets que j'ai, mais j'en ai pas beaucoup, mais je pense qu'il y en a suffisamment dans la Bible pour en méditer chaque jour. Encore mieux, on peut les apprendre, ces versets. Et je ne résiste pas à l'envie ce matin de vous en lire quelques-uns. On trouve en Ésaïe 43, verset 4, « Oui, parce que tu m'es précieux, et que tu as du prix pour moi, et que je t'aime, je donnerai des hommes en échange de toi, et des nations contre ta vie. » En Joël 2, verset 18, « Ah, l'Éternel éprouve pour son pays un amour passionné, et il a pitié de son peuple. » En Ézéchiel 34, verset 16, c'est toujours Dieu qui parle et qui dit « Je chercherai la brebis qui sera perdue. Je ramènerai celle qui se sera éloignée. Je panserai celle qui a une patte cassée. Et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celle qui est grasse et forte. Je les ferai paître avec équité. » Une première manière de nous revêtir de l'amour, c'est de méditer ces versets que Dieu a placés dans sa parole, où il nous dit tout son amour. Une deuxième chose que je veux vous conseiller, c'est de prendre un temps chaque jour où nous fixons véritablement notre attention sur Dieu. Et quand je dis un temps pour fixer notre attention sur Dieu, je ne parle pas de se garder 10 minutes le matin pour lire le passage du jour et prier un peu. Croyez-moi, je les connais, ces 10 minutes-là. Les 5 premières, on a encore la tête dans ce qu'on faisait juste avant. Et les 5 dernières, on est en train de se dire, faut pas que je tarde trop, sinon je vais avoir les bouchons sur la rocade. Non, il nous faut un vrai temps avec Dieu. Et je suis conscient que pour beaucoup, ce n'est pas facile d'avoir ce temps. Mais pourtant, c'est indispensable. Par-dessus tout, nous dit Paul, par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour. Et c'est dans l'intimité avec notre Seigneur qu'on se revêt de son amour et qu'on est capable de le porter toute la journée, partout où nous allons. Alors là-dessus aurait pu s'arrêter mon message, tout comme le verset en fait. Paul aurait pu simplement dire « Par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour. » Ça aurait été suffisant pour qu'on obéisse à cette parole et que l'on recherche de tout notre être à nous revêtir de l'amour. Mais non, il a souhaité ajouter « C'est le lien de la perfection. » Et ce petit ajout, je pense, est vraiment une grâce de Dieu pour nous. Il nous montre que l'amour n'est pas simplement un commandement de Dieu. L'amour est une bénédiction de Dieu pour nos vies. Et ça, c'est le dessert pour ce matin. L'amour est le lien de la perfection, non pas un lien parfait. C'est pas écrit un lien parfait, c'est écrit le lien de la perfection. Et l'idée derrière le mot qui est utilisé ici, c'est que l'amour est comme une force par laquelle tous les éléments de la perfection sont réunis, sont rassemblés. Non pas un lien extérieur, mais un lien intérieur. Une bonne image pour illustrer cela, c'est celle d'une molécule. Une molécule, elle est faite de plein d'atomes. Et ces atomes, en fait, sont très éloignés les uns des autres. Mais il y a un lien fort qui les unit, qui les empêche de se disperser. Si la perfection était comme une molécule, eh bien, l'amour serait ce lien fort qui maintient les différents aspects de la perfection. L'amour est donc en fait la condition, le moyen et même la source de la perfection. Alors qu'est-ce qu'on lit en Matthieu 5, 48 ? Est-ce que quelqu'un peut nous lire Matthieu 5, verset 48 ? Merci. Dieu nous appelle à la perfection. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. La barre placée par Dieu est vraiment très haute. Bien, dites-vous que si nous ne nous revêtons pas de l'amour, qui est le lien de la perfection, c'est comme si nous étions dans une compétition de saut à la perche avec une barre 5 mètres au-dessus de nous et qu'on n'avait pas de perche. C'est impossible. L'amour est notre perche pour atteindre la perfection parce qu'elle est la source, la condition et le moyen même de la perfection. C'est la première bénédiction apportée par l'amour dans nos vies, c'est qu'il nous permet d'atteindre la barre placée par Dieu. La deuxième bénédiction, l'amour est incompatible avec le mal. Nous revêtir de l'amour, c'est nous débarrasser de tout ce qui nous attire vers le mal. En 1 Corinthiens 13, verset 5, il nous est dit « Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. » Nous revêtir de l'amour nous sanctifie, car cela développe notre haine du mal. Un troisième point, on en a parlé tout à l'heure, l'amour est infini et éternel, comme Dieu. En 1 Corinthiens 13, verset 8, nous lisons « L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, la connaissance particulière cessera. » Mais l'amour, lui, ne cessera pas. Il n'a pas de fin. Voilà encore en quoi il est le lien de la perfection. Nous revêtir de cet amour, c'est investir dans des richesses éternelles. Ce petit effort que l'on fait aujourd'hui pour aimer, on va en tirer des bénéfices aujourd'hui, demain, dans 5 ans, dans 10 ans, et chaque jour de notre existence, jusque dans la vie éternelle. Si on nous proposait un placement comme ça pour de l'argent, mais tout le monde signerait directement. L'amour nous permet d'atteindre la barre placée par Dieu, l'amour nous sanctifie, l'amour nous apporte des richesses éternelles. Et quatrième point, l'amour nous rend semblables à Christ. En effet, la véritable révélation de l'amour est en Jésus-Christ. Essayer d'expliquer pourquoi l'amour est le lien de la perfection, c'est quelque chose de difficile, tant cela est profond et vaste. Mais comprendre et méditer cet amour, c'est une véritable bénédiction, car cela nous rend semblables à Christ. Je suis sûr que beaucoup de gens ici connaissent le verset Jean 3, 16. Mais est-ce que vous connaissez le verset de 1 Jean 3, 16 ? Je crois qu'il est moins connu. Hein. Mais c'est aussi un verset qui nous parle de l'amour et qu'on peut retenir. Vous pouvez le chercher, 1 Jean 3, verset 16. À ceci, nous avons connu l'amour. C'est que Jésus a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner nos vies pour nos frères. Aimer, c'est suivre Christ, notre modèle, notre Seigneur. Et Christ, c'est Dieu fait homme, la perfection incarnée. Alors, ma conclusion ce matin, ce n'est pas moi qui l'ai rédigé, c'est encore une fois l'apôtre Paul. Et les trois versets que je vais vous lire sont vraiment mon souhait et ma prière pour chacun d'entre vous ce matin, et bien sûr pour moi-même également. Et comme il n'y a rien à y ajouter, je terminerai ensuite par la prière. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce que l'on peut connaître. Et vous serez ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu. Seigneur, je veux te remercier pour ton amour immense pour nous. Je veux te remercier de ce que il est quelque chose d'unique, une bénédiction pour nos vies. Et vivre cet amour est une bénédiction pour nos vies. Et je veux vraiment te prier comme il nous est dit dans ces trois versets d'Éphésiens, que nous puissions être enracinés, fondés sur cet amour, que nos vies puissent prendre exemple sur toi, Seigneur Jésus-Christ, et sur ton amour. Je te prie pour mes frères et sœurs, pour moi-même, pour cette Église, Seigneur, que nous ayons vraiment à cœur de revêtir l'amour, afin d'être capable de l'amener partout où nous allons, de le partager, de le vivre concrètement, Seigneur. Merci encore pour ta parole, merci encore parce qu'elle nous montre ton amour pour nous, et je te prie de bénir la suite de cette journée. Dans le nom de Jésus, amen.